Radio Starbucks.
Morning edition from NPR News.
France Inter, le 18-20.
The description of the mural is that it's two IRA volunteers.
La peinture qui est sur le mur de cette maison représente deux volontaires qui ont été tués en 1973.
C'est un ancien de l'IRA qui parle, qui fait visiter sa ville Belfast, qui fait visiter ses murs surtout, ses fresques peintes à l'époque des affrontements catholiques-protestants. Nous sommes 20 ans après le Good Friday qui a mis fin à cette guerre. Les anciens de l'IRA sont changés en guides touristiques. Ce sera l'escale reportage d'un jour dans le monde. Florence Paracuelos nous emmène au cinéma en Arabie Saoudite et dans les rues d'Accra au Ghana, 18h50 le cinéma en VO, Eva Bétan et un festival de films iraniens qui nous apprend beaucoup de choses, c'est à Beaubourg et si c'est jusqu'au 8 juin prochain, 18h55, Le Monde à l'envers de Jean-Marc Four qui se demande ce soir si ces rencontres États-Unis-Corée du Nord ne sont pas un peu trop rapides pour être honnête. Mais avant, c'est à Malte que nous allons sur les traces d'une journaliste assassinée. Le monde est vaste et on n'a qu'une heure, bonsoir.
Fabienne Saint-Fès. Un jour dans le monde.
Vous le savez, depuis hier sur France Inter, hier soir, ce matin encore, ce soir et puis demain également, c'est chez nous donc et aussi dans 17 grands médias internationaux que nous parlons d'une femme, une journaliste, elle s'appelle Daphne Caruana Galizia, elle est journaliste maltaise, elle était journaliste à Malte, assassinée le 16 octobre 2017. Et l'idée du Daphné Project, le projet Daphné qui s'inscrit dans un cadre plus large encore, on en parlera dans un instant, c'est de reprendre cette enquête là où Daphné l'a laissée et d'avancer à sa place. Elle enquêtait sur la corruption dans son pays Malte à de très haut niveau. Qui avait intérêt donc à la faire taire? Qui a commandité cet assassinat? Qui tire avantage de sa mort? C'est en refaisant toutes ces enquêtes que nous aurons ces réponses-là, que nous irons collectivement. Bonsoir à vous Sylvain Tronchet.
Bonsoir Fabienne.
C'est vous qui, pour le service enquête de Radio France, revenez dans les pas de Daphné Caruana Galizia et vous allez nous raconter où nous en sommes ce soir. Bonsoir Laurent Richard.
Bonsoir.
Vous êtes à l'origine du Daphné Projet, j'allais dire plus loin encore, de Forbidden Stories, les histoires interdites, le but étant de faire vivre ces enquêtes malgré la mort des journalistes qui les ont commencées et même de protéger d'ailleurs les données de certains journalistes qui sont en train en ce moment d'enquêter dans certains pays sur des choses très compliquées. Avant qu'on écoute les révélation de ce soir. Laurent Richard, un mot sur la manière dont le projet est né et pourquoi, surtout, comment naît votre histoire?
Le projet, il est né d'une nécessité, c'est que quand un journaliste est tué ou emprisonné, c'est une information qui manque à une opinion publique, à des citoyens. L'idée de Forbidden Stories, c'est de justement poursuivre le travail que d'autres ne peuvent plus faire parce qu'ils ont été arrêtés, assassinés, censurés. Et il était évident qu'on devait se mobiliser, nous tous, sur le projet Daphné, terminer les enquêtes de cette journaliste maltaise. C'est une affaire européenne, c'est une affaire parfaitement, totalement internationale, puisqu'elle enquêtait sur le crime organisé, des réseaux de blanchiment. Notre objectif, c'est un objectif en fait, de journaliste, il s'agit donc d'informer.
Et c'est intéressant parce que le message n'est pas forcément le messager désormais, ça on l'a appris depuis aussi les affaires judiciaires, les Panama Papers, etc. À plusieurs, hors concurrence, on est tellement plus fort.
Oui, c'est même... En fait, la collaboration est une forme de protection. Ça ne fait plus aucun sens de s'en prendre à un journaliste si derrière, il y en a 10, 20, 30 autres qui sont prêts à poursuivre le travail. Donc c'est comme ça qu'on a envisagé ce projet et c'est aussi une façon d'envoyer un signal fort aux ennemis de la presse pour leur dire vous pouvez toujours essayer d'arrêter le messager, vous n'arrêterez pas le message.
Et ce qui est très emblématique dans l'affaire dont on parle en ce moment, donc celle de Daphné Caruana Galizia, c'est effectivement, vous le disiez, on est en Europe, on est à deux pas d'ici, on part en vacances à Malte, on sait exactement où c'est.
On est au cœur de l'Union européenne. En 6 mois, 2 journalistes ont été assassinés sur le sol de l'Union européenne. Donc c'est une affaire qui nous concerne. Malte doit aussi rendre des comptes à l'Union européenne. Et c'est pour ça que les révélations de ce soir et des jours prochains sont importantes. Et d'ores et déjà, il y a déjà des réactions dans la classe politique maltaise. Hier, après les révélations du Daphné Project, des membres de l'opposition ont quitté l'hémicycle juste après les révélations.
Alors, on va y venir effectivement, raconter un peu ce qui s'est passé depuis que tout cela a commencé. Sylvain, c'est aussi ensemble qu'on va commencer, j'allais dire, en voyant un peu qui est cette femme, en fait. Daphné, une blogueuse, enfin pas seulement, c'était un site internet aussi qui était derrière elle, et puis un sacré caractère.
Un grand caractère, effectivement, un style très particulier, très, très incisif, et surtout une redoutable enquêtrice. Hein. C'était, comme nous l'a dit une journaliste maltaise qu'on a croisée sur place, un Wikileaks à elle toute seule, Daphné Caruana Galizia. Elle avait révélé des dizaines d'affaires dans un pays, c'est vrai, qui n'en manque pas, mais où le rythme des scandales s'était singulièrement accéléré ces dernières années. Elle était l'enquêtrice numéro 1 à Malte, comme le raconte son fils, Matthew.
She was the only person
Elle était la seule à enquêter sur les sujets sensibles à Malte. Les autres ne faisaient que reprendre ces informations. Et ça veut dire que si quelqu'un voulait ne plus entendre parler de ces sujets, tout ce qu'ils avaient à faire, c'était l'éliminer. Éliminer la source de tout cela.
Mathieu Caruana Galizia, hein, qui est journaliste d'investigation lui-même pour le consortium ICIJ qui avait sorti les Panama Papers notamment.
Exactement, donc les chiens ne font pas des chats. Alors les sujets sensibles à Malte, Sylvain, ça veut dire quoi concrètement ?
Eh bien ça veut dire de très forts soupçons de corruption qui flottent au-dessus du gouvernement du travailliste Joseph Muscat. Hein, les Panama Papers justement et Daphne Caruana Galizia avaient révélé que deux membres du gouvernement, le directeur de cabinet du Premier ministre, Keith Chambry et l'actuel ministre du Tourisme, Conrad Midi, étaient bénéficiaires de sociétés offshore. Daphne Caruana Galizia était même allée plus loin. D'après elle, la propre femme du Premier ministre aurait touché de l'argent en provenance d'Azerbaïdjan. Ça n'a jamais été prouvé, mais Joseph Muscat a nié. Et surtout, sa réaction, ça a été de convoquer des élections, de se faire réélire, et puis de renommer les ministres qui, eux, étaient sérieusement mouillés par ces affaires, de les remettre en place, circuler, il n'y a rien à voir, en quelque sorte. Ce qui n'a pas convaincu Arnold Cassola, c'est le fondateur du Parti Vert à Malte.
Une personne normale, dans une démocratie normale, après 5 minutes, il aurait renvoyé Conrad Mitzi et Keith Chambry, il dit bye-bye. Et Muscat, il continue à protéger ces deux. Pourquoi il les protège ? Qu'est-ce qu'il y a de tellement important qu'il continue à les protéger, à les maintenir dans leur position, etc. Mitzi et Keith Chambry, ils ont quelque chose sur Muscat.
Alors, pourquoi il les protège, effectivement? Mais avec toutes ces révélations, tout ce qu'on entend, il y a bien des enquêtes en cours, Sylvain.
Il y a des enquêtes à Malte, effectivement. Officiellement, elles sont toujours en cours. Mais je vais vous raconter quelque chose pour bien comprendre. L'agence anti-blanchiment maltaise, par exemple, elle a produit plusieurs rapports accablants, notamment d'ailleurs pour ces deux membres du gouvernement dont on parle. Ces rapports, c'est la loi maltaise, ont été transmis au chef de la police. C'est lui, à Malte, qui a le pouvoir d'ouvrir les enquêtes. Et vous savez ce qu'il a fait le chef de la police quand il a vu ces rapports? Eh bien, il a démissionné. Voilà, tout simplement. Et puis quelques semaines après, c'est le patron de l'agence anti-blanchiment qui démissionnait sans qu'on sache pourquoi. Et puis quelques semaines plus tard, c'est le directeur des enquêtes de cette agence anti-blanchiment dont on savait qu'il se rapprochait lui aussi dans ses enquêtes de membres du gouvernement, et bien qui était limogé. Tous ces gens en fait sont nommés irrévocables par le gouvernement. Il y a un vrai problème d'état de droit actuellement à Malte.
Donc on a bien compris effectivement quel était le contexte dans ce tout petit pays qu'est Malte. Le projet Daphné, l'idée de reprendre donc toutes ces enquêtes, vous ont mené où en fait ? Ça vous emmène où tout ça ?
Eh bien nous emmener, et ce sont les révélations de ce soir, sur la piste d'une banque qui était au cœur en fait de toutes les enquêtes récentes de Daphné Caruana Galizia. Une banque créée par le fils d'un milliardaire iranien, un homme qui s'appelle Ali Sader, un homme que connaît très bien le Premier ministre Joseph Muscat. Il était à son mariage à Venise et sa banque, la Pilatus, hein, c'est son nom, n'est pas vraiment une banque comme les autres. Hein, ça n'a rien à voir avec votre banque. Écoutez ce que nous en a dit Maria Efimova, c'est une ancienne employée de la Pilatus. Elle était une informatrice de Daphne Caruana Galizia.
Le business model de cette banque et les opérations qu'elle effectuait n'étaient pas habituelles. J'ai de bonnes raisons de penser que cette banque a été créée pour faciliter des opérations de blanchiment d'argent. Un jour, j'ai pu voir le total du bilan, c'était 200 millions. Et je me souviens que M. Sader a dit que 80% des actifs venaient de 2 ou 3 clients.
Voilà, 2 ou 3 clients. En fait, cette banque a été créée probablement pour ça. Et il s'est passé un truc totalement surréaliste dans cette banque. Le soir où Daphne Caruana Galizia affirme que la femme du Premier ministre aurait touché de l'argent via un compte d'ailleurs précisément placé dans cette banque. Il y a une équipe de télévision maltaise qui filme Ali Sader, le propriétaire de la banque, qui sort par la sortie de secours de la Pilatus avec 2 gros sacs qui filent à l'aéroport. Et puis quelques temps plus tard, un jet qui décolle de La Valette sans passager à bord et un avion que les journalistes maltais vont s'amuser à pister sur Internet. Et il atterrit où, vous savez ? Il atterrit à Bakou, la capitale de l'Azerbaïdjan. Exactement, cet avion. Cette banque est clairement soupçonnée en fait de servir de porte d'entrée en Europe à des fonds proches de la dictature installée à Bakou. Des suspicions qui sont d'ailleurs partagées par l'ancienne magistrate, aujourd'hui députée européenne, Eva Joly.
Nous savons que les Azerbaïdjanais cherchent à blanchir des fonds et à pénétrer la zone européenne. Nous savons que l'Azerbaïdjan a payé des élus pour soutenir leur image lorsque les documents indiquent que c'est pas un État démocratique, c'est une dictature. Et donc, c'est en soi très suspect, évidemment.
Donc très suspect, dit Eva Joly, donc soupçon très bien, mais vous avez trouvé des Azerbaïdjanais.
Oui, effectivement, on a identifié que les familles Aliyev et Heydarov avaient effectivement des comptes dans cette banque et que leur argent était même arrivé jusqu'en France, on va vous expliquer comment, grâce au laxisme, on va dire au mieux, des autorités maltaises. Alors la famille Aliyev, hein, c'est la famille du président azerbaïdjanais, celui qui vient d'être réélu il y a quelques jours avec 85% des voix. La famille Heydarov, c'est celle de son ministre des situations d'urgence, qui est aussi un oligarque milliardaire. Et nous avons découvert que ses deux fils avaient racheté, grâce à des circuits opaques passant par cette banque, eh bien, trois sociétés françaises. Un fabricant de linge de maison, une maison de très haute gamme qui fabrique le linge de l'Élysée, la maison Porto à Cambrai, une société qui fabrique des figurines en Seine-Maritime, et une institution de la porcelaine de Limoges, la maison Coquet, dont le PDG, Christian Lepage, se demandait depuis quelques années d'ailleurs qui se cachait derrière l'entreprise en apparence française qui l'avait rachetée il y a 4 ans.
Au printemps dernier, on a entendu parler d'un héritier d'une trentaine d'années du pétrole. Moi, j'ai tout de suite, je l'ai cherché, héritier, prince héritier, héritier, pétrole. Et à chaque fois, on tombait sur le prince héritier de l'Arabie Saoudite, celui dont on parle, il est venu en France il n'y a pas longtemps. On a tous été persuadés plusieurs mois que c'était lui, le vrai bailleur de fonds.
C'était bien des héritiers du pétrole, quelque part. Il y en a effectivement en Azerbaïdjan, mais c'était les frères Heydarov. Voilà comment cette banque, en fait, a servi de paravent pour permettre à des capitaux douteux d'entrer en Europe. Une banque qui avait été officiellement blanchie de tous les soupçons qui pesaient sur elle par les autorités maltaises il y a un peu plus d'un an. Ce qu'on ne savait pas à ce moment-là, c'est que son fondateur, Ali Sader, faisait l'objet d'une enquête aux États-Unis. Il a été arrêté il y a un mois. Il risque 125 ans de prison aux États-Unis. Aujourd'hui, cet homme, pour contournement de l'embargo sur l'Iran. Lorsqu'elle est morte, Daphne Caruana Galizia était poursuivie en justice par cette banque qui menaçait de lui réclamer des millions de dollars.
Sylvain Tronchet, merci beaucoup. On comprend bien jusqu'à quel point ces révélations vont jusqu'à nous, en fait, finissent par arriver chez nous, y compris en France. Laurent Richard, moi, il y a toujours quelque chose qui m'étonne là-dedans. Il y a des commissions, il y a des enquêtes, y compris au niveau européen. On sait bien que le verre est dans le fruit à Malte. On l'a vu dans les Panama Papers, on l'a vu ailleurs. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que font les élus? Est-ce que ces commissions ne servent à rien, en fait, finalement?
Je dirais pas qu'elles servent à rien, parce qu'on a vu des commissions sur les Panama Papers, sur les LuxLeaks, qui ont pu produire des effets. Mais on a besoin du travail d'investigation pour faire avancer la société et les sociétés civiles. Malte, c'est effectivement une île et un endroit à part au cœur de l'Union européenne où il y a un problème de corruption endémique. Et c'est exactement ce que dénonçait Daphne Galizia et qui lui a coûté la vie. Donc il est temps que cet état de droit soit un peu restauré et qu'il rende des comptes aussi à l'Union européenne et à sa propre population.
Alors, et qui n'est pas le cas pour l'instant, on a bien compris en écoutant Sylvain par exemple que parfois il suffisait de démissionner tout le monde et de remettre tout le monde au même endroit pour que ça fonctionne. Vous y faisiez allusion tout à l'heure, est-ce que les premières révélations quand même font bouger quelques lignes? Est-ce que tout ça peut faire bouger des lignes ou pas?
Oui, tout ça fait déjà bouger des lignes. Hier, donc à la sortie des informations du Daphne Project, des membres de l'opposition ont tous quitté l'hémicycle, la séance au sein durant la séance à l'Assemblée. Aujourd'hui, après ces révélations, je suis sûr qu'il y aura d'autres réactions. On va voir aussi comment réagit l'Union européenne et ce qu'elle peut demander aux autorités maltaises dans les jours qui viennent.
Qu'est-ce qu'elle peut leur demander, justement? Quel genre de preuves on peut demander quand on est l'Union européenne à Malte?
Il y a un élément important, c'est que Malte vend son passeport maltais pour être une porte d'entrée au sein de l'Union européenne. Donc ça, c'est un sujet important. Donc dans ce sens-là, elle engage toute l'Union européenne. Et parce qu'elle vend des passeports maltais, donc elle vend la citoyenneté européenne. Et donc, comme ça, des oligarques russes, ukrainiens, des profils un peu aussi douteux peuvent venir investir en France. On le voit avec l'affaire Pilatus. C'est quelque chose qui peut être inquiétant aussi en France.
Laurent Richard, nous, collectivement, nous enquêtons 17 médias, etc. Puis après, il y a ce qui se passe à Malte, en fait. Et qui reste à Malte? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a pris la relève de Daphné? Est-ce qu'il y a d'autres journalistes, peut-être son fils d'ailleurs, est-ce qu'il y a d'autres journalistes qui travaillent sur ces affaires-là et qui, à leur tour, risquent le même sort que notre consoeur?
Oui, ces affaires-là sont extrêmement dangereuses à Malte. Dans notre consortium, il y a un partenaire maltais qui s'appelle le Times of Malta qui effectue un excellent travail. Le journaliste qui a travaillé avec nous s'appelle Jacques Borb et vraiment on lui rend hommage parce qu'il a effectué un travail incroyable, hyper important,
extrêmement précieux.
Depuis Malte. Et c'était pour nous fondamental de travailler avec des partenaires maltais. Donc le Daphné Project, c'est un projet qu'on ouvre mais qu'on ne refermera pas et que l'on va poursuivre dans le temps. Les affaires de Daphné seront pour toujours extrêmement intéressantes pour nous.
Alors ouvert, et c'est le moins qu'on puisse dire, ouvert toujours sur Inter également, puisque Sylvain, demain 7h15, le Zoom de la rédaction sur France Inter avec
un nouveau dossier,
de nouvelles révélations. Merci beaucoup, merci à tous les deux.
Merci.
France Inter, Fabienne Synthès. Un jour dans le monde.
La suite d'un jour dans le monde en Irlande du Nord avec des guides touristiques étonnants. Vous découvrirez, mais qui savent exactement de quoi ils parlent, dans les cinémas d'Arabie Saoudite avec des muezzins aussi qui sont trop bruyants à Accra. Ce sera Florence Paracuelos. Eva Bétan, bonsoir.
Bonsoir.
Cinéma, bien sûr, avec vous aussi, mais un festival de films iraniens.
Oui, et qui nous permettra de comprendre, je ne sais pas comment on dit nouvelle vague en iranien, mais qu'il y a eu une nouvelle vague dans les années 60, ce qui explique que nous ayons vu arriver beaucoup de cinéastes magnifiques.
Et donc, à tout à l'heure, Le Monde à l'envers. Jean-Marc Four, bonsoir Jean-Marc.
Bonsoir Fabien. Bonsoir à tous.
Attention à ne pas se hâter trop vite avec la Corée du Nord. Ouais,
vous savez hein, où le patron de la CIA a passé son week-end de Pâques
hein, oui.
En Corée du Nord, incroyable.
Hein,
oui,
chance.
Ça, entre Trump et Kim, ah oui, c'est ça, hein, ça va vite, ça va très vite. Question, est-ce que ça va trop vite?
On verra ça à 18h55. Le tour de la planète continue avec un détour, tiens, par Paris. Elle s'appelle Canine Twin Shadow sur France Inter. The forest dark, but the moon is clear. My feet move up the solitary. I know my aim, the night's game. All the same, it can't happen. When my research breathing the sweet heat, from wrapping myself, supporting my feet, I raise my halo fat chain. Then I proclaim. Sur France Inter, Twin Shadow, Florence Paracuelos est dans la place.
France Inter.
Good evening and welcome.
Gerasimakiou Kapion.
Un jour dans le monde.
Intervention extra.
Et sous les radars, Florence, direction Riyad pour commencer. Concurrencer un peu Eva Bétan, puisqu'on va au cinéma ce soir.
Mais oui, pour la première projection dans le premier cinéma rouvert en Arabie Saoudite après plus de 40 ans d'interdiction. Pour sortir du blackout, c'est Black Panther qui a été choisi. La séance n'est pas ouverte au grand public. C'est un test avant la véritable ouverture de la salle le mois prochain dans le quartier financier de Riyad. 500 sièges en cuir accueilleront les spectateurs. Et parmi ceux qui les étreindront ce soir, Adam Aaron, patron du géant américain AMC Entertainment. C'est lui qui a obtenu la première licence d'exploitation dans le royaume. Il va ouvrir 40 cinémas dans une quinzaine de villes d'ici 5 ans. Il en espère 100 d'ici 2030. Que va-t-il montrer au public saoudien ? Eh bien, sensiblement la même chose qu'aux Américains. On va projeter des blockbusters d'Hollywood qui sont très populaires aux États-Unis, en Europe et ailleurs. Vous savez, Hollywood, qui montre ses films au Moyen-Orient depuis longtemps, a su prouver qu'elle s'adaptait bien à la culture de la région. Donc c'est sûr, les grands films aux États-Unis seront des grands films en Arabie Saoudite. Et les promesses sont si alléchantes qu'Adam Aron espère qu'AMC va truster 50% du marché saoudien. 30 millions d'habitants, dont plus de la moitié à moins de 25 ans, c'est-à-dire autant de clients potentiels pour les blockbusters américains en Arabie Saoudite. Le marché pourrait rapporter 1 milliard de dollars de recettes au box-office simplement dans les premières années de ce retour. Tour du cinéma, Fabienne.
Florence, trop de bruit à Accra, la capitale du Ghana, et il paraît que ce trop de bruit, c'est un vrai problème.
Oui, regardez, jugez plutôt. Il paraît qu'on ne s'entend plus à Accra.
Ben c'est vrai quoi.
Fabienne, c'est ce que disent les autorités, notamment à l'heure de la prière. Le ministre de l'Environnement ghanéen suggère donc de faire taire les muezzines. Comment se fait-il, demande-t-il, que l'appel à la prière ne puisse pas être envoyé par SMS ou par WhatsApp? L'idée est assez fraîchement accueilli, il faut le dire, par les croyants.
C'est l'heure de la prière.
Ils ne sont pas tous sur les réseaux sociaux, contrairement à vous, Fabienne. La ville de Kigali, au Rwanda, pour les mêmes raisons de réduction des nuisances sonores, vient d'interdire les appels à la prière. Le bruit est un problème de santé publique, selon l'OMS, à cause de son influence sur le sommeil et sur les maladies cardiovasculaires.
Eh ben écoutez, Florence, hein, donc un petit SMS pour la prière et puis au lit, c'est ça ?
J'avais prévu de vous parler de l'Arménie, parce qu'il s'y passe beaucoup de choses en ce moment, mais apparemment vous ne le savez pas, puis ça tombe bien parce que j'ai pas ma feuille.
Voilà,
mais
c'est
si vous voulez, je vous en parlerai demain.
C'est pour ça que je ne sais pas, mais écoutez, voilà. Prenons date. Merci Florence.
France Inter.
Doha, Harare, Jérusalem,
Mecca. Le 18-20.
Le Mexique est juste derrière.
Un jour dans le monde.
Séoul, Washington,
São Paulo,
Beyrouth,
France Inter.
C'est en Irlande du Nord, que nous emmène l'escale reportage d'un jour dans le monde. Ce soir, on est très très loin des problématiques Brexit, des craintes de retour de frontières, etc. Vous allez voir, direction Belfast et ses murs surtout. Bonsoir Stéphane Combe.
Bonsoir Fabienne.
On a tous mis les pieds une fois à Belfast, on sait qu'il y a sur les murs des fresques énormes, des peintures murales qui symbolisent la lutte armée de l'IRA et des forces unionistes. Désormais, 20 ans après les accords de paix, après le Good Friday, ces fresques, elles sont comme un musée extérieur qui parle de l'histoire de la ville. Et ce qui est étonnant, Stéphane, c'est le guide.
Et pour découvrir ces fresques murales, les guides sont tout simplement d'anciens combattants et prisonniers politiques. Peter Whelan est un ancien prisonnier des fameux blocs H, et toujours un activiste républicain. Et avec lui, nous allons arpenter les rues d'un quartier catholique de Belfast Ouest.
Les fresques picturales qui sont sur les murs de ces maisons permettent d'identifier les membres de la communauté républicaine qui se sont engagés comme volontaires dans les rangs de l'IRA. Ces peintures s'adressent à leurs amis, à leurs familles. Ces membres de l'IRA étaient considérés comme des criminels, des terroristes. Mais en fait, ils étaient des combattants qui défendaient la communauté républicaine. Les gens de ce quartier pouvaient et peuvent encore s'identifier à la cause politique. Et ces fresques murales permettent de s'identifier à cet engagement. Ce quartier républicain de Belfast a vraiment souffert dans le conflit. Il y a des centaines de personnes de ce quartier qui sont mortes. Il y a de nombreux volontaires de l'IRA qui sont morts. Donc les peintures sur les murs sont aussi une expression de la reconnaissance des habitants pour tous ces morts. Les Britanniques affirmaient qu'ils étaient des criminels, des terroristes. Ils essayaient de diviser, séparer la communauté républicaine avec l'IRA.
Est-ce que vous pouvez me décrire la fresque qui est sur ce mur ?
La peinture qui est sur le mur de cette maison représente deux volontaires qui ont été tués en 1973.
On the right, you have Jim Bryson, and on the left, Patrick Mulvaney.
Sur la droite, il y a Jim Bryson et sur la gauche, Patrick Mulvaney. Jim Bresson porte une mitraillette. Cette peinture symbolise la vie militaire des membres de l'IRA.
And the mural obviously shows the IRA volunteers who are armed. Okay. A lot of people talk about these as if
beaucoup de gens considèrent qu'elle glorifie le militarisme, mais c'est faux. Elle exprime la résistance républicaine et elle célèbre la lutte armée pour la résistance à l'oppression britannique. Je n'ai pas de regrets pour les choses pour lesquelles j'ai été inculpé. Je n'ai pas de regrets pour mon temps passé en prison.
Alors pour comprendre pourquoi et comment des anciens activistes de l'IRA sont devenus en quelque sorte des guides touristiques, je suis allé à la rencontre de Michael Culbert. Il est lui-même un ancien membre de l'IRA, il a participé aux négociations de paix du Good Friday Agreement de 1998 et aujourd'hui il est le directeur de l'agence de tourisme COIST basée à Belfast.
Les anciens prisonniers politiques sont discriminés à l'embauche du fait de leur passé judiciaire et ils ont donc le plus grand mal à trouver un travail. Nous avons donc vu une opportunité avec le nombre croissant de touristes à Belfast, le grand nombre d'étudiants, de chercheurs, de politiciens qui viennent ici pour observer le processus de paix. Nous avons donc décidé de leur offrir un service en proposant des visites guidées sur l'histoire du conflit en Irlande du Nord. En utilisant comme guide des anciens prisonniers politiques, cela leur permet d'avoir un emploi à plein temps et cela permet aux visiteurs d'avoir comme guide une personne qui leur offre une vision particulière du conflit qui est en fait une guerre contre le colonialisme.
Merci Mathieu. Au revoir. Bye bye.
Ces visites guidées sur les affrontements à Belfast se font aussi du côté protestant. Et d'anciens activistes unionistes sont également devenus des guides touristiques après des années de prison.
Je m'appelle Noël Large. Je suis un ancien prisonnier politique et activiste du groupe unioniste UVF. Je suis guide pour l'agence de tourisme EPIC et je suis un ancien tueur. J'ai été inculpé pour l'assassinat entre 1981 et 1982 de 4 personnes. À cette période, j'ai été arrêté plusieurs fois et j'ai reconnu les actes. J'ai fait 16 ans de prison. Plus jeune, j'étais pauvre. Nous n'avions pas d'eau, pas de toilettes. Je connais parfaitement les discriminations sociales auxquelles étaient confrontés les républicains, les catholiques, notamment dans les domaines de l'emploi, du logement. Je ne dis pas que cela n'existait pas, mais est-ce que cela justifie la lutte armée ? Je ne le crois pas, je ne le crois plus. Lors de ma visite de Belfast côté protestant, je montre un endroit où un bébé a été tué avec sa mère par une bombe de l'IRA. Et je ne crois pas qu'une lutte armée, quelle qu'elle soit, justifie de faire couler le sang des innocents.
Stéphane Combe dans Un jour dans le monde sur France Inter. Tito Puente, Ran Can Can.
Pero suenan los timbales.
Tito Puente, Ran Can Can, c'est sur France Inter. 3, 2,
1, France Inter.
Movies are made of light.
Le 18-20.
Appelons ensemble votre jury.
And the winner is...
Un jour dans le monde.
Action!
Le cinéma en VO, comme tous les mercredis, avec Eva Bétan. Eva, vous voilà dans votre élément, tout pile. Un panorama de cinéma moderne iranien au Centre Pompidou. Tout ce que vous adorez, avec un hommage à un grand cinéaste, Amir Naderi. Alors, on verra des raretés, nous dites-vous, avec une vue d'ensemble sur le cinéma iranien. Bref, vous avez pris un pied considérable.
Oui, alors, je voudrais partir d'une chose, d'une photo actuelle. Il y a deux cinéastes iraniens qui sont en compétition pour la Palme d'Or à Cannes. Asghar Farhadi, qui avait eu l'Oscar du film étranger, a tourné en Espagne avec le couple Mouistar, Penélope Cruz et Javier Bardem. L'autre, c'est Jafar Panahi, qui a des difficultés, c'est un euphémisme, avec les autorités iraniennes. On ne sait pas s'il pourra venir à Cannes et s'il vient, s'ils le laisseront rentrer dans son pays, ce qui est plus grave. Avec ces deux, vous avez tout. Le talent pour les deux cinéastes, l'aura internationale et la censure. En France, on a commencé à connaître le cinéma iranien, je dirais, il y a 25 ans. La tête de pont, c'était Kiarostami, le grand maître. On a connu quelques autres personnes, mais ce n'est qu'une vision parcellaire, puisque par définition, on ne voit que ce qui est arrivé ici. L'avantage de ce panorama, c'est de répondre à certaines questions. Par exemple, d'où vient une vague, en quelque sorte? La personne qui a organisé ce panorama s'appelle Agnès de Victor, c'est la grande spécialiste du cinéma iranien, elle écrit plusieurs livres sur le sujet, elle passe plusieurs mois de l'année là-bas, et elle date cette modernité au début des années 60. Ça commence par le documentaire, c'est pas anodin. C'est-à-dire que des gens ont commencé à dire on va filmer maintenant l'Iran réel, on va arrêter, et la fiction a boité le pas dans cette mouvance en quelque sorte. Après, l'autre curiosité, c'est qu'est-ce qui a été filmé qu'on n'a pas vu. Et ce qui est intéressant et qu'elle va nous expliquer, écoutez là, c'est qu'ils ont filmé les grands bouleversements qu'a connu l'Iran. Agnès de Victor.
On a des films qui sont faits pendant la Révolution, notamment par Kiarostami, dans un film remarquable qui s'appelle Cas numéro 1, Cas numéro 2. C'est ce que filmera Amir Naderi dans un film qui s'appelle La Recherche, en interrogeant cette révolution, ses récits, ses disparus, à partir donc de tous ces disparus de la Révolution. Ils prennent la décision d'utiliser la caméra pour comprendre ce qui se passe. La Révolution n'est pas encore finie, que Saddam Hussein bombarde l'Iran et envahit le sud du pays. Et à nouveau, ces mêmes réalisateurs vont filmer la guerre pendant la guerre. 8 ans d'une guerre très longue, on a souvent coutume de dire que c'est la dernière grande guerre classique du XXe siècle, guerre de tranchées.
C'est un cinéma à ce moment-là critique ou c'est un cinéma qui accompagne le régime de la guerre?
Je crois que la question ne se pose pas comme ça en Iran. Il y a une guerre, le territoire national est agressé et l'ensemble de la population iranienne, quelles que soient les tendances, vont faire cause commune contre cette guerre, même les cinéastes. Alors, les grands cinéastes vont bien sûr, grâce au cinéma, introduire des doutes, introduire des questions, arrêter de considérer le spectateur comme une éponge qui imbiberait des images et des slogans, mais vont l'interroger en permanence.
Mais ça veut dire que ces films, on ne les verra jamais, en fait. Ceux qui racontent cette histoire iranienne,
oui,
finalement.
Par exemple, le film d'Amir Naderi dont elle parle, est visible dans ce panorama. Donc, ce qui est vraiment intéressant.
Alors, et sinon, il y a la censure, évidemment, Eva. On ne peut pas parler d'Iran sans parler de censure.
C'est évident. Alors, il faudrait dire les censures, parce qu'il y a, je dirais, une constante. C'est la censure politique qui va varier sur le moment, qui va être fluctuante. Vous ne savez jamais si elle va tomber sur vous ou pas. Et il y a des choses qui vont dépendre des régimes. Par exemple, sous le Shah d'Iran, ce que m'expliquait Agnès de Victor, il ne fallait pas toucher aussi à la grandeur de l'Iran. Il ne fallait pas montrer un pays avec de la pauvreté ou de la misère. Quand arrive la révolution iranienne de 79 de Khomeini, la cible, c'est plutôt les femmes. Écoutez.
Après la Révolution, la cible principale de la censure, certes, va être le régime politique. Il sera interdit d'émettre la moindre critique. Mais je dirais que le plus problématique pour les réalisateurs sera la représentation des femmes et du comportement entre les hommes et les femmes à l'écran. Alors, c'est politique, parce que la politique, c'est comment on vit ensemble. La censure iranienne, c'est allégé sur ce contrôle de l'image des femmes, mais pendant très longtemps, peut-être que le cinéma a été considéré comme une façon de projeter plus largement ce que pourrait être cette société islamique idéale où des comportements seraient strictement respectés entre hommes et femmes, où la tenue vestimentaire serait strictement respectée, ce qui n'était pas le cas dans la vraie vie en Iran.
En tout cas, c'est passionnant, tout ça. Ça donne vraiment envie. Ça se passe au Centre Pompidou, à Paris, et c'est jusqu'au
8 juin.
Et merci beaucoup, Eva Bétan.
Le 18-20, Fabienne Saint-Ès. Sur France Inter.
Et Jean-Marc Four qui met le monde à l'envers comme tous les soirs, dont Un jour dans le monde. Jean-Marc, décidément, les choses s'accélèrent en Corée du Nord, c'est le moins qu'on puisse dire. Confirmation aujourd'hui de la récente visite du patron de la CIA à Pyongyang, ça arrive quand même pas tous les jours. Et c'était totalement inconcevable, évidemment, il y a quelques mois. La paix, donc, peut-être à portée de main à les savoir. Tout ça va extrêmement vite. Et vous, qui adorez jouer les rabat-joie, vous dites attention, peut-être que ça va trop vite même.
Alors mesdames, messieurs, voici le tweet du jour de Donald Trump, horaire 12h42 heure de Paris, je vous lis, ouvrez les guillemets. Mike Pompeo met with Kim Jong-un in North Korea last week, meeting went very smoothly, etc. etc. Mm-hmm. Le patron de la CIA, donc Mike Pompeo, par ailleurs en passe de devenir secrétaire d'État, donc chef de la diplomatie américaine, est donc allé en Corée du Nord lors du week-end de Pâques pour rencontrer le leader nord-coréen et tout s'est bien passé. Et là, c'est vrai qu'on fait pause quand même d'abord. On se dit, waouh, nous sommes vraiment dans un accélérateur de particules où tout d'un coup, sur ce dossier, tout avance désormais à la vitesse de l'éclair. Parce que c'est vrai quand même, souvenons-nous, il y a 6 mois, on était au bord de la guerre, les deux pays étaient à couteau tiré. Kim tirait des missiles à longueur de semaine, des missiles nucléaires s'il vous plaît, et Trump le menaçait en retour d'un déluge de feu. Et voilà maintenant que Pompeo rencontre Kim Jong-un. Je sais pas, moi, c'est un peu comme si les Jedi négociaient avec les Sith ou s'il y avait la grande réconciliation au sein de la famille Hallyday, vous voyez le genre, le truc improbable. Et en plus, c'est parti pour continuer. Dans 10 jours, le 27 avril, sommet intercoréen à la frontière entre les deux pays, dans la zone démilitarisée de Panmunjom. Mmh. Il est même question d'un traité de paix, celui qu'on attend depuis 65 ans, depuis le simple armistice de la fin de la guerre de Corée. Et tout indique désormais qu'il y aura bien, dans la foulée, sans doute début juin, une rencontre Kim Jong-un, Trump, dans un lieu neutre, hein, incroyable, peut-être Panmunjom à nouveau, à moins que ça ne soit Genève ou Stockholm, c'est sans précédent. Donc la guerre s'éloigne, tant mieux, mais c'est vrai, ça va tellement vite que ça comporte quand même des risques.
Mais alors pourquoi c'est risqué d'aller si vite?
On va prendre une image. Trump joue au poker, il veut faire des coups, il veut aller vite. En face, Kim joue plutôt une partie de Go, sur le temps long, une partie préparée par sa famille, son grand-père, son père, au pouvoir depuis des décennies. Le risque, c'est donc d'abord de se retrouver début juin avec un sommet insuffisamment préparé côté américain. Ça peut conduire soit à céder trop rapidement aux demandes de la Corée du Nord, soit à l'inverse, à exiger de façon trop radicale une dénucléarisation immédiate du régime nord-coréen. Et dans ce cas, attention, mauvais engrenage. Kim refuserait évidemment parce que le nucléaire est devenu son assurance-vie. Et les durs de l'administration de Trump, en particulier le conseiller à la sécurité nationale John Bolton, reprendraient aussitôt la main pour dire « on ne peut vraiment pas négocier avec ces gens-là ». Et hop là, alors là, marche arrière toute, accélérateur de particules dans l'autre sens, droit au conflit. L'autre risque d'un sommet Trump-Kim précipité, c'est de négliger deux autres acteurs sans qui rien ne se fera. La Chine, qui tient l'économie nord-coréenne à bout de bras, on le sait, et qui peut donc aussi la pousser à se réformer économiquement. Et le Japon, qui s'inquiète d'un désarmement nord-coréen partiel, ce qui maintiendrait Tokyo sous la menace de missiles moyenne portée de la Corée du Nord.
Mais alors du coup, si on vous suit, pourquoi au contraire il faudrait aller lentement?
Mais parce que les sujets nécessitent tout simplement une négociation approfondie. D'abord la dénucléarisation nord-coréenne, on y revient. Oui, mais de quelle ampleur? Avec quel calendrier? D'abord un gel des tirs, d'accord, mais après? Et puis avec quel système de vérification et de contrôle? On a vu à quel point c'est compliqué. Par exemple avec l'Iran. Ensuite, plus largement, la démilitarisation de la péninsule coréenne pour tourner définitivement la page de la guerre. Aujourd'hui, rappelons que plus de 25 000 soldats américains stationnent encore en Corée du Sud. Et puis encore des symboles aussi, le sort de 3 prisonniers américains retenus à Pyongyang, la restitution de dépouilles de GIs de la guerre de Corée ou le sort de dizaines de Japonais enlevés par la Corée du Nord dans les années 70. Donc vous m'avez compris, tout ça ne va pas se régler en un tweet ou en un photocall. Si Washington et Pyongyang veulent vraiment la paix, le meilleur gage sera paradoxalement aussi une forme de lenteur, un calendrier précis de négociation. Les diplomates doivent parfois être bousculés, ça Trump sait très bien faire, mais il faut aussi leur laisser le temps de travailler.
Et alors peut-être que cela dit, ce sera la photo de ces deux-là qui fera 28 000 fois le tour du monde et puis après...
C'est possible,
et après,
il ne se passe rien derrière.
Et on verra ça. Merci beaucoup Jean-Marc Four. Demain évidemment pour Le Monde à l'envers, la suite du 18-20, c'est le journal et c'est aussi le téléphone, sonne, attachez votre ceinture. On parle de limitation de vitesse à 80 ce soir. À tout de suite, restez avec nous.